Thalia Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc une auteure, auteure de 6 romans, donc de Mère agitée en 2002, à Titus ne Baberinis, donc votre dernier roman, paru en 2015 et qui a été nominé au prix Goncourt et qui vous vaudra le prix Médicis. Donc, vous participez en ce moment à Lyon aux Assises internationales du roman et vous avez participé donc hier, lundi 23 mai, à la table ronde autour des figures légendaires avec Yann Meur et Nathalie Léger, lors de l'ouverture de la 10e saison des Assises internationales du roman. Bonjour et bienvenue sur Transistor.
Merci.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
Titus mange goulûment. Il a une faim proportionnelle à l'énergie que lui demande ce moment. Bérénice ne touche pas à son plat. Elle reste immobile, le regard fixé sur son assiette. Puis elle pleure. Il la prend dans ses bras, elle veut s'en aller, il la retient. « Quel monstre suis-je ? » dit Titus en essuyant une dernière fois les pleurs de celle qu'il a tant aimée. Mais sa décision ne change pas. Titus aime Bérénice et la quitte. Titus quitte Bérénice pour ne pas quitter Roma, son épouse légitime, la mère de ses enfants. Titus n'aime plus Roma depuis longtemps, mais elle est courageuse, vaillante, compréhensive. Alors, pour ne rien changer, ne rien détruire, Titus s'avance vers Roma et dit « Reprends-moi ». Et Roma, qui ne supporte pas qu'il abandonne ainsi le château de leurs années, le reprend. Le soir où Titus la quitte, Bérénice ne peut plus se tenir debout. Sitôt rentrée, elle s'allonge. Mais même à l'horizontale, elle se sent encore très longue, très instable. Tout tourne autour d'elle. Et soudain, son estomac se soulève. Mais elle ne parvient pas à vomir. Elle se recouche, et là, sa nausée revient de plus loin encore, d'une zone du ventre plus enfouie, plus sourde, qui d'habitude ne se manifeste pas, ne gagne pas la surface. Elle ne sait pas encore que le fiel est l'autre nom de la bile, mais comprend que les profondeurs du corps et de l'âme se logent au même endroit. L'abandon de Titus, c'est une tache noire sur sa peau. Adam, avant le péché, était un diamant, et après le péché, il est devenu un charbon, écrit Saint Cyran, le complice de Cornelius Jansen.
Merci. Alors, votre roman met en scène donc une Bérénice moderne, donc une héroïne qui est en proie à un chagrin d'amour. Et là, au lieu de se tourner donc, vers des auteurs peut-être plus contemporains ou des femmes qui, comme elle, auraient vécu le chagrin d'un point de vue féminin, elle va se tourner vers un homme du passé, donc Racine. Alors, pourquoi Racine ? Pourquoi ce regard masculin sur le chagrin féminin ?
Alors, de manière circonstancielle, je dirais que c'est parce qu'elle entend un vers au cours d'une conversation qui est un vers de Bérénice, un vers d'Antiochus plus précisément, et que ce vers lui attire, enfin lui fait tendre l'oreille et lui fait entendre, je dirais, quelque chose qui ressemble à sa douleur. Et ça commence comme ça, mais ça, ce sont les circonstances. Et de manière plus structurelle, en fait, ce qui se passe, c'est que elle est en rupture, je dirais, avec le masculin suite à cet abandon qu'elle subit, et elle a besoin de renouer avec le masculin. Et donc elle a besoin qu'un regard masculin se pose sur ce qu'elle traverse, sur ce qu'elle ressent. Et sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles elle se tourne vers un auteur qui est donc un auteur masculin et non pas féminin, qui serait trop proche, qui serait trop évident. Et ce regard du masculin sur le féminin, eh bien, l'œuvre de Racine en est une illustration suprême. Donc c'est vrai que suite à ce vers qu'elle entend, elle commence à lire, à entrer dans les pièces, à les lire les unes après les autres, et plus elle lit et plus elle découvre une communauté d'appartenance avec ses héroïnes principalement. On peut dire aussi qu'il y a évidemment des personnages masculins qui sont très forts, mais l'œuvre de Racine est peuplée d'héroïnes qui sont comme elle en proie au chagrin et au sentiment d'abandon.
Alors justement, une des surprises, c'est que lorsqu'on voit votre titre, Titus n'est pas Bérénice, la surprise finalement, c'est de découvrir un roman sur Racine, là où on s'attendait peut-être à une sorte de réécriture moderne de Bérénice. Alors est-ce que votre idée première, c'était de faire un livre sur Racine, ou lorsque finalement c'était sur Bérénice, et puis vous avez été amené à Racine, parce que Racine s'est imposée finalement?
Racine s'est d'abord imposée. En fait, mon idée première, c'était de lui consacrer une enquête romanesque et d'essayer de comprendre comment il s'était formé, comment il avait vécu, ce qu'il avait traversé pour finalement donner cette œuvre si particulière. Donc ça, c'était l'idée première. Mais une fois que j'ai travaillé autour de cette idée-là, je me suis dit que sans doute il y avait d'abord un mystère dans cette œuvre, et que ce mystère, c'était peut-être la pièce de Bérénice qui est au centre de son œuvre et qui est vraiment très très particulière, qui n'aurait jamais dû exister en fait. On se demande comment cet homme-là et cet auteur-là a pu créer et ce personnage et cette pièce. Et donc il y avait comme ça ce point aveugle qu'il me plaisait d'explorer par cette enquête biographique, mais aussi par une résonance actuelle, par une réplique d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai ensuite construit ce récit contemporain avec cette rupture dans un café et les suites de cette rupture pour donner, si vous voulez, mon sixième acte à la pièce de Racine et construire ce récit comme une pièce de théâtre finalement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le développer beaucoup, je n'ai pas voulu le travailler comme un roman à part entière, mais vraiment comme des actes de tragédie. Donc il y en a trois au-dessus du récit qui est consacré à la vie de Racine.
Alors justement, quelle est la part de recherche que vous avez effectuée donc en amont sur Racine, parce qu'il y a beaucoup de biographies qui ont été écrites, mais c'est le premier roman finalement qui avait Racine pour héros. Quelle est la part en fait de réel, quelle est la part de fiction dans ce que vous présentez?
Alors je me suis documentée évidemment, j'ai lu pas mal de choses qui avaient été écrites et sur sa vie et sur son œuvre et sur son époque. Donc je suis allée évidemment, j'ai rayonné autour de Port-Royal, autour de Louis XIV, du royaume, des arts à cette époque-là, etc. Donc je me suis pas mal documentée, mais je n'ai pas non plus voulu faire œuvre d'érudition ou d'exhaustivité. Et donc j'ai lu quelques livres, et à partir de là, en fait, mon imagination était suffisamment nourrie pour déployer cette histoire. Et ce qui m'intéressait, c'était d'entrer dans la tête de ce créateur qui, a priori, est très très étranger, et à moi, et à l'époque, et à la littérature d'aujourd'hui, parce qu'il travaille au 17e, parce qu'il travaille sur un genre hyper codifié, et qu'aujourd'hui, c'est très difficilement compréhensible comme manière de créer. Mais j'avais envie de cette étrangeté et de cette distance pour quand même entrer dans la tête d'un créateur et écrire, je dirais, un roman d'écrivain, en quelque sorte.
Justement, alors quelle serait finalement la plus grosse liberté que vous êtes accordée dans le traitement de l'homme de Racine, par rapport à sa maîtresse et l'être?
D'abord, la plus grande des libertés, c'était de l'appeler Jean et de le prendre à l'âge de 10 ans, alors qu'on a plutôt comme image de lui une statue de marbre blanc officielle, institutionnelle, patrimoniale, certifiée. Or, moi, je le prends, petit garçon, en proie à des tas de sensations à la fois naïve, spontanée, à des crises de vomissement, voilà, dans une espèce de trivialité qui est déjà une grande liberté, je pense. Et puis ensuite, les libertés que j'ai pu prendre, oui, c'est à la fois dans ses rapports avec le féminin, ses maîtresses, mais pas tellement, en fait, c'est pas tellement là que je me suis le plus autorisée de liberté. C'est plutôt dans la façon dont il se liait à ses maîtres, dont il observait la nature, dont il manipulait, je dirais, des éléments de langage. Tout ça, c'est des choses que je n'ai pas trouvées dans les livres, je dirais, dans les biographies ou dans les documents historiques. C'est des choses qui sont purement imaginaires, et c'est peut-être là que ma liberté s'est le plus exprimée. Ensuite, c'est vrai que j'ai imaginé des séances, par exemple, d'interrogation de femmes pour nourrir sa compréhension de la psyché féminine. Alors évidemment, ça, c'est des grandes licences que j'ai prises, parce que je ne pense pas du tout qu'il ait pu procéder comme ça, ou peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas c'est pas du tout retenu par l'histoire. Donc voilà, les libertés, je les ai prises un peu à différents endroits finalement.
D'accord. Vous évoquez que justement Bérénice, c'était un peu le plus grand mystère de l'œuvre de Racine. Alors pour le lecteur qui ne connaît pas vraiment Racine, pourquoi plus Bérénice que Fête par exemple? Quelle est la part un peu de mystère qui entoure Bérénice?
Parce que dans Bérénice, en fait, il ne se passe pas grand-chose. C'est une pièce ultra moderne à l'intérieur de cette œuvre qui est moderne, mais qui est quand même, je dirais, influencée par les codes de la tragédie où il y a de l'action principale et de l'action secondaire. Or, dans Bérénice, il y a une action principale qui se contente d'être, je dirais, l'annonce que Titus doit faire à Bérénice et qui, en fait, dure 5 actes. C'est-à-dire que pendant 5 actes, il doit trouver le courage de lui dire « je te quitte ». Et c'est l'action principale, et c'est quasiment la seule action de la pièce. C'est-à-dire que c'est une action très mince, et que d'ailleurs Racine assume, hein, puisque dans sa préface, il met en avant le fait qu'il a choisi finalement d'écrire une sorte de une tragédie sur presque rien, hein, ce sont les mots qu'il emploie. Et 2 siècles avant Flaubert, il a cette ambition de faire reposer l'œuvre sur la force de son style. Donc, cette indigence d'action, je dirais, fait de Bérénice une pièce très particulière. Et à la différence des autres héroïnes de Racine, Bérénice est une femme évidemment très très blessée, mais qui se tient très droite jusqu'à la fin, qui jamais ne tombe, qui jamais ne verse dans le suicide, qui jusqu'à la fin du 5e acte reste magnanime et repart sur ses terres en laissant ses 2 hommes derrière elle, Titus et Antiochus, mais je dirais sans hystérie, sans crise vraiment sans crise violente. Et elle se distingue aussi des autres héroïnes pour ça. Voilà, donc on a l'impression, enfin en tout cas c'est moi l'image que j'en ai, que Bérénice se tient au milieu de l'œuvre de Racine comme une espèce de monument, un monument de chagrin majestueux. Alors lui, il parle de tristesse majestueuse dans sa préface, qui est à la fois d'une grande modernité, d'une grande singularité et d'un grand calme.
D'accord. Il y a justement une autre figure de femme sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'importance que Racine accorde. Donc à Didon. Donc Didon, qui est cette reine de Carthage, hein, qui est délaissée par Énée chez Virgile. Alors vous en faites le symbole de l'amour malheureux, du désespoir féminin, et qui va justement avoir beaucoup d'importance chez Racine dans ses jeunes années, et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Alors pourquoi Didon?
Alors c'est une hypothèse que je fais. Alors c'est pas moi qui invente le fait qu'il est un grand lecteur de Virgile, hein, ça c'est officiel. Mais ce qui m'a intéressée dans cette hypothèse, c'était d'y voir, je dirais, une sorte de matrice, de figure matricielle de toutes les héroïnes qui viendront après. Parce que Didon, elle a cette particularité, quand elle est décrite par Virgile, d'être très très incarnée. C'est vraiment un corps en proie aux larmes, aux sécrétions, au liquide, et je dirais à l'affect physique du chagrin. Donc... Et en ça, elle a quelque chose de très violent et de très cru et de très malséant. Et donc, quand il est formé à Port-Royal, il est évidemment incité à lire Virgile, parce que Virgile fait partie des grands auteurs qu'on étudie. Mais le livre 4 de l'Énéide, qui est consacré donc à l'abandon de Titus, à l'abandon de Didon par Énée, est un livre proscrit. On n'autorise pas les petits garçons à le lire parce qu'il est évidemment trop tourné vers l'amour physique et vers l'amour humain et vers la passion et vers tout ce qui est évidemment très sévèrement condamné par le christianisme janséniste. Donc il y a à la fois cette crudité, cette incarnation du féminin et cette interdiction qui donne à Didon, pour moi, une force d'inspiration toute particulière. C'est-à-dire que le cumul de ces qualités-là, de ces attributs-là, en font, je dirais, une espèce de geyser comme ça dans la vie de Racine qui va nourrir l'élaboration de ces caractères féminins futurs.
Très bien. Et donc justement, revenons sur Racine, en tout cas d'un des premiers romans avec Racine en tant que héros narratif et en tant qu'objet de fiction. Alors, est-ce que c'était un exercice périlleux d'apporter comme ça un Jean qui sort
Ouais, bien sûr, c'était risqué parce que c'est faire fi du patrimoine et d'une sorte de distance vis-à-vis de ces grandes figures et de ces grands auteurs. Donc l'appeler Jean et se mettre à hauteur d'enfant et encore une fois le traiter avec une forme de trivialité, c'était pas du tout garanti que ce soit bien reçu. Et pourtant c'était quand même mon projet de casser un peu le marbre et de briser la statue. Donc mais je peux pas vous cacher que j'avais peur pendant l'écriture que d'être complètement à côté de la plaque et que ça marche pas et que ce soit à la fois culotté voire déplacé. Donc voilà, c'était l'ambition et c'était un pari, ça pouvait aussi ne pas passer.
Parce qu'à un moment, donc, je crois que c'est dans une interview, vous évoquiez l'idée donc, de révéler le patrimoine français avec Racine. Alors, parce que vous dites que pour parler des tragédies de Racine, qui sont quand même beaucoup étudiées en cours, est-ce qu'elles ont quand même toujours quelque chose à nous dire
Mais je crois que oui, et d'abord, elles ne sont pas beaucoup étudiées en cours, elles sont étudiées, mais de moins en moins, et pas par tous les professeurs, parce que c'est difficile, je pense, de présenter ça à une classe de 30 élèves qui vont avoir du mal à comprendre, qui vont trouver que c'est une forme désuète, compassée, voilà, trop codée, et d'un autre temps. Donc je pense que d'abord, les profs qui s'y engagent sont vaillants et valeureux, et il faut de l'enthousiasme pour forcer les barrages de la langue, donc c'est pas aussi évident que ça. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, si vous amenez Racine aux adolescents d'aujourd'hui par le biais de l'amour, du chagrin, du sentiment de l'abandon, c'est peut-être un peu plus facile que seulement par le code du 17e et le classicisme. Je pense que c'est une porte d'accès qui le leur rend plus proche. Et je dirais que il y a une autre façon de les toucher, c'est aussi de leur montrer qu'un grand classique de manuel scolaire a d'abord été un enfant et un adolescent comme eux, et qu'il a été pétri de contradictions, qu'il a été nourri par des maîtres et en même temps malmené par des maîtres, et donc voilà, qu'il a simplement été un adolescent, et même si l'époque n'est pas la même et même si les apprentissages ont changé, il y a des constantes quand même dans l'éducation et dans le rapport au texte, et peut-être que c'est une façon de les toucher que de leur permettre cette identification et ce rapport de plein pied avec un grand auteur qui, normalement, n'est jamais de plein pied.
Et donc, vous recommandez Racine pour le chagrin d'amour ?
Je pense que quand on lit Bérénice, ou même les autres pièces, mais Bérénice en particulier, c'est d'un grand réconfort de se rendre compte qu'en fait, c'est un thème universel, c'est un thème séculaire, c'est un thème... Oui, qui a toujours été comme ça une inspiration forte de la littérature. Et à la fois, il n'y a rien de plus banal qu'un chagrin, mais en même temps, il n'y a rien de plus singulier. C'est-à-dire que quand on est dedans, on a l'impression qu'on est le seul à le connaître et qu'on ne s'en sortira pas. Et en même temps, de se dire qu'on fait partie d'un cortège comme ça, millénaire, c'est un peu réconfortant. Ça ne suffit pas à vous consoler, mais c'est un peu réconfortant.
Très bien, merci. Peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire votre vers de Racine préférée ?
Alors moi j'ai une très mauvaise mémoire pour tout ce qui est vers, donc je suis pas du tout, ça sort pas comme ça.
Ah.
Mais non, j'aime bien, mais vous voyez, ça se chamboule dans ma tête, en fait je retrouve même pas l'ordre du vers. Non, je peux pas vous répondre.
Alors, votre pièce alors
Ah, moi je les aime. J'aime à la fois beaucoup Bérénice, mais j'adore Phèdre.
Il n'y en a pas une qui rejaillit.
Bon, on va dire que Bérénice est peut-être celle qui me touche le plus, mais il n'y a pas si longtemps, je suis allée voir un Phèdre et j'ai trouvé ça éblouissant. Donc non, je dois dire que je les aime à part égale.
Ok, bah, Nathalie Lazoulay, merci beaucoup.